Aujourd'hui, on va aborder le verset le plus connu de toute la Bible. Et quelque part, c'est intimidant, à juste titre. Donc, je vais prier et on va remettre ce temps au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Aide-nous ce matin à le comprendre un peu plus, un peu davantage. On a souvent une mauvaise conception, on a souvent l'idée que tu nous aimes et qu'après il faut qu'on produise, il faut qu'on soit obéissant, sinon tu vas nous rejeter, il faut que l'on fasse des choses pour mériter cet amour que tu nous as dit nous offrir en premier lieu. Je te prie vraiment de corriger toutes ces fausses notions qui peuvent s'infiltrer dans nos têtes sous l'influence de l'ennemi et du monde et de notre vieille nature qui n'est pas prête à pardonner, Seigneur. Je te demande ton aide pour aborder cet évangile en miniature qu'est Jean 3,16 et les versets qui suivent. Seigneur, c'est un verset que l'on connaît. C'est un verset que l'on cite, c'est malheureusement des fois un verset que l'on connaît trop bien et on oublie d'y réfléchir en vérité, Seigneur. On peut le citer, on peut se dire oui, je connais, et aide-nous à en découvrir la magnificence ce matin. Aide-nous à avoir encore plus d'amour en retour pour toi, Seigneur. Que ton amour manifesté à la croix, ce sacrifice accepté comme en atteste la résurrection de Jésus-Christ, Seigneur, puisse vraiment transformer nos vies. Donne-nous aussi le fardeau de partager cette incroyable bonne nouvelle avec tous ceux qui nous entourent. Sans aucun préjudice, Seigneur. On te le demande avec ferveur. Et Seigneur, je veux te remettre toutes les églises qui t'adorent en esprit et en vérité, qui se réunissent ce matin ou ce jour, ici à Nice, dans la région, dans ce pays de France et partout dans le monde, Seigneur. Tu as ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, et ce monde qui, pour la plupart des personnes, t'ignore, Seigneur. On te demande d'agir par ton esprit. Il est autour de tous les hommes pour les convaincre de justice, de péché, de jugement, Seigneur, et nous voulons que ces hommes viennent à toi, Seigneur. C'est notre prière, c'est notre requête, Seigneur. Et on sait que tu le veux encore plus que nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à être des instruments de paix, à être ceux par qui l'Évangile est annoncé à beaucoup d'autres. Nous le prions par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, comme je l'indiquais, c'est vrai que Jean 3,16, et on va lire Jean 3,16 à 21, c'est un verset très connu. C'est un verset que j'avais lu, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais été élevé dans la foi catholique, mais je n'étais pas vraiment sauvé dans le sens où je n'avais pas une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et on descendait de Paris avec ma famille chez des amis qui habitaient Antibes. Et je ne sais plus exactement où, peut-être certains s'en rappelleront. Sur l'autoroute, on pouvait voir une façade d'une vieille grange. Et en très grand caractère, il y avait marqué Jean 3,16. Et pour moi, c'était resté une question. Qu'est-ce que c'était que ce Jean 3,16 ? Jusqu'à ce que je vienne à Jésus et que je réalise qu'en fait, c'était l'explication de l'amour et du salut en Jésus-Christ. Et c'est encore aujourd'hui, quelquefois, des chrétiens dans les grandes manifestations sportive, dans la finale de la Coupe du Monde, on voit des signes qui apparaissent avec Jean 3,16. Pourquoi ? Parce que c'est un bon endroit pour que ça soit diffusé en large et que ça interpelle les gens. Je me souviens, on avait un groupe de jeunes à Calvary qui s'appelait Jeunes à Calvary Jacques, il y a quelques années, et leur responsable était très créatif, donc il les emmenait au Festival de Cannes, quand il y avait les émissions retransmises par Canal+, et le but c'était qu'ils viennent avec des panneaux Jean 3.16, et donc on était tout contents quand on regardait l'émission sur Canal+, de voir quelques signes Jean 3.16. Ils n'en parlaient pas, bien sûr, et je ne sais pas si ça a conduit grand monde au salut, mais c'est ce fameux verset Jean 3.16 qu'on va lire maintenant. Je lis dans la version Second 21. Jean 3.16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Amen. Vous avez peut-être entendu sans doute parler du grand évangéliste Moody au milieu du 19e siècle, dans les années 1860. C'est lui qui habitait Chicago, il avait une grande église, il avait commencé des écoles d'enseignement chrétien. Et aujourd'hui, il y a toujours une association Moody qui continue à envoyer, à produire du matériel pour l'évangélisation. Et à l'époque, on raconte qu'il était venu en Europe, et notamment en Angleterre, en Écosse, pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Et on dit qu'en 1867, il y avait un jeune pasteur qui s'appelait Henry Morehouse, qui s'était radicalement converti d'une vie de jeune gangster, de jeune voleur, et il avait rencontré le Seigneur et il était vraiment intéressé de rencontrer ce monsieur Moody. Et il lui avait demandé, il a dit, si jamais un jour je viens à Chicago, est-ce que vous me laisseriez prêcher dans votre église? Et Moody, pensant, bon, jamais il viendra là-bas, bien sûr, oui, bien sûr, ça sera avec plaisir. En se disant que s'il venait, qu'il prêchait une fois, il ne pouvait pas faire trop de dommages avec une doctrine qu'il ne connaissait, dont il n'était pas sûr, Moody. Et puis le temps a passé, puis un jour, ce jeune homme l'appelle à Chicago et lui dit « Voilà, je suis arrivé ici et je voulais savoir si votre invitation tenait toujours. » Et donc Moody est un peu surpris que le gars ait eu de la persévérance comme ça, mais il lui dit « Oui, moi d'ailleurs je dois partir cette semaine pour une tournée, donc vous êtes bienvenu de venir prêcher ce dimanche à l'église. » Donc il met son équipe au courant et puis il revient une semaine plus tard et il demande à sa femme comment ça s'est passé avec ce jeune prédicateur. Oh, elle a dit, c'était vraiment formidable. C'était bien son sermon dimanche? Ah oui, non, c'était super. Et c'était dimanche et lundi et mardi et mercredi. Il dit quoi? Il a prêché toute la semaine? Oui. Et c'était vraiment bien. Oui, il prêche mieux que toi, tu sais. Ah bon? Tu devrais aller l'écouter. Il continuait à enseigner. Et il demande à sa femme, mais qu'est-ce qu'il a de différent? Et elle lui répond, en fait, Il enseigne aux pécheurs que Dieu les aime. Il enseigne aux pécheurs que Dieu les aime. Et on dit que ça a révolutionné l'enseignement de Moody, qu'il est reparti avec beaucoup plus de fruits, de zèle. Mais ce simple message, Dieu aime les pécheurs. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes intégré, ou est-ce que nous pensons que, d'accord, il nous aime, mais il faut qu'on fasse le ménage chez nous, et là il nous aime davantage. Et puis on a quand même travaillé pour être pur, pour mériter cet amour. Et c'est subtil. Mais est-ce que vous pouvez vraiment penser aux gens les plus pénibles que vous connaissez, que ce soit des personnes que vous connaissez personnellement ou des gens dont vous entendez parler dans les nouvelles, des hommes politiques, des célébrités quelconques, en disant Dieu a de l'amour pour eux. Et je crois que si on intégrait vraiment cela, ça changerait notre vision du monde et des âmes seraient sauvées en plus grande quantité que maintenant. Et je vois dans mon propre cœur, il y a des choses à ne pas faire, et quand on a dépassé certaines limites, mon cœur se ferme comme un cœur de pierre. Cœur de pierre Petrignani, non, mais... Il doit être remplacé par ce cœur de chair, d'amour. Si on a vraiment cette autre conception, alors tout change, tout change. Et en plus, si on est honnête avec nous-mêmes, on remercie Dieu de ce qu'il aime les pécheurs, parce que je suis le pire des pécheurs. Paul le disait, mais je crois que chacun de nous peut le dire. Je suis le pire des pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'on connaît l'étendue de notre péché. Alors c'est peut-être pas du péché qui s'exprime de façon externe, extérieure, mais ça peut être le péché dans nos cœurs. Et si je vous disais qu'on a un nouvel appareil qui marche ce matin et qu'on va projeter sur l'écran toutes les pensées de votre cœur pendant une heure, je crois qu'il y aurait beaucoup de monde qui irait aux toilettes. En même temps. Cet homme, Henry Morehouse, c'était le même message, le même verset qu'il étudiait tous les soirs. Et on pourrait passer des années à étudier Jean 3,16 sans jamais arriver à le vider ou à couvrir tout ce qu'il représente. Aujourd'hui, on dit aux hommes qu'ils ont été créés suite à un accident cosmique. Des éclairs, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils ont frappé une soupe primordiale de molécules réunies là par hasard. Et puis, par un jeu de probabilités statistiques, ces molécules se sont transformées et finalement on a abouti à des cellules vivantes qui se sont agglomérées, et puis pof, l'homme est arrivé. Donc on dit, ouais, vous êtes le résultat d'un accident cosmique. Et puis quand les gens sont déprimés, et en France on est le premier pays de la déprime, on est les plus grands consommateurs d'anxiolytiques, de Prozac et autres produits qui essaient de nous remonter le moral, on s'étonne en fait que les gens aient une mauvaise image d'eux-mêmes. Et en fait, la Bible nous donne un tout autre message. Aujourd'hui, on est habitué à payer le prix qu'on nous demande pour acheter un article, surtout si c'est en ligne. On sait qu'il faut donner le numéro de la carte et qu'ils vont retirer exactement le montant du prix du téléphone, dernier cri, des chaussures de sport, quoi que ce soit. Et on pense jamais, et les vendeurs sont contents de cela, à essayer de marchander. Si je vous achète deux portables, est-ce que vous me faites un prix? On n'y pense même pas parce qu'on pense que le prix, c'est quelque chose d'intrinsèque. En fait, tous ceux qui ont fait un peu d'économie vous diront que le prix d'une chose est déterminé par, pas par les valeurs intrinsèques de l'objet, mais par ce que quelqu'un est prêt à dépenser pour cet objet. Si Apple ne vendait aucun iPhone coûtant plus de 200 euros, je peux vous garantir qu'ils baisseraient leur prix. Mais on est pris par l'enthousiasme, par la qualité des matières, des matériaux, du téléphone, et on dépense jusqu'à 1300 ou plus pour un téléphone. Et donc, la réponse, lorsque les gens sont déprimés, lorsqu'ils se pensent être des accidents cosmiques, c'est de leur dire qu'en fait, Dieu a placé une valeur extraordinaire sur vous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour vous obtenir. Et là, ça va, le soleil s'est un peu levé. Mais hier, je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui avait le moral un peu dans les chaussettes. À Nice, on n'est pas habitué au ciel gris. Et on commence à douter de l'amour de Dieu. On voit plein de problèmes, on voit plein de choses en noir. Et en fait, la simple idée de se dire que Dieu m'aime tant, même si j'étais tout seul sur la terre, il m'aime tant qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher dans l'univers. Ça devrait nous convaincre de l'extraordinaire valeur que Dieu a, avec laquelle il nous considère. Luther a dit que ce verset Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle », c'est l'évangile en raccourci. C'est du concentré d'évangile. C'est très puissant. Paul reprenait l'idée de la valeur que Dieu met sur nous en disant dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?» Dieu nous a donné son Fils. Alors, il y a beaucoup de textes qui commentent ce verset en montrant qu'il est vraiment le verset des plus. On parle du plus grand bienfaiteur, Dieu. La plus grande motivation, il a tant aimé. Le plus grand nombre, le monde. Le plus grand acte, il a donné. Le plus grand cadeau, son Fils unique. La plus grande invitation, la plus large invitation, afin que quiconque, la plus grande simplicité, croit, la plus grande attraction, croit en lui, la plus grande promesse, ne périsse pas. Mais la plus grande différence, la plus grande certitude qu'il est, la plus grande possession, la vie éternelle. L'invitation du salut vient de Dieu le Père. On pense à tort, on fait une différence entre Dieu le Père, qui serait sévère, coléreux, intraitable, et puis Jésus, Dieu le Fils de Dieu, qui serait doux, aimant, bienveillant, prêt à pardonner. Et c'est un peu comme si on pense que c'est le Fils qui avait persuadé le Père de pardonner les hommes. Mais en fait, quand on lit bien, c'est le Père qui a envoyé le Fils parce qu'il aime les hommes. L'amour du Père. L'essence de Dieu, c'est l'amour. On trouve ça normal, peut-être. Mais c'était pas gagné d'avance. On aurait pu avoir un Dieu tout-puissant qui soit tout sauf de l'amour. un Dieu dictateur, un Dieu avec un gros bâton qui attend de nous voir trébucher pour nous abattre encore plus. On ne veut pas que l'amour... L'amour n'est pas un Dieu, mais Dieu est amour. La première lettre de Jean, 1 Jean 4,8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il est la définition de l'amour. Dieu est amour. Il n'exige pas de nous une obéissance servile. Il n'est pas un monarque tyrannique. Dieu est le Père qui n'est pas heureux tant que tous ses enfants, ses fils prodigues, ses filles prodigues ne sont pas revenus à la maison. Il n'impose pas sa volonté aux hommes. Des fois, je me dis, ce serait plus simple si chaque fois que je fais une bêtise, je commets un péché, pof, je prenais un grand coup de bâton sur la tête. Il ne resterait plus grand-chose de Pierre. Mais non, c'est, Paul le dit dans Romains 2, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. L'amour est plus puissant pour nous transformer que le bâton. Amen. L'étendue de l'amour de Dieu, c'est l'humanité entière. Dieu a tant aimé le monde. Encore une fois, on a une grande familiarité avec ce verset, donc on peut dire, et Dieu a tant aimé le monde. Mais il est toujours bon, quand on lit la Bible, d'essayer de se replacer un peu à la place des gens à qui Dieu parle ou à qui Jésus parle. Et là, si vous vous souvenez, il parle à ce grand théologien d'Israël, Nicodème. Nicodème, qui était un homme ouvert, mais qui était sans doute un homme raciste, qui avait les préjugés du peuple juif, à savoir que Dieu avait choisi le peuple juif parce qu'il était meilleur que les païens. Il y avait même des textes rabbiniques qui disaient qu'en fait, les païens, c'était comme du combustible pour chauffer le feu de l'enfer. Il y avait un orgueil totalement déplacé qui faisait que les juifs se pensaient supérieurs aux non-juifs. Et dans aucun texte, on voyait ce « Dieu a aimé tous les hommes ». Alors, c'était bien l'intention de Dieu d'atterrir, si je peux me permettre, dans la race humaine, en choisissant un terrain d'atterrissage, c'était le peuple juif. Il aurait pu en choisir un autre peuple, mais c'est ainsi, il est souverain, il s'est créé un peuple par la descendance d'Abraham et il a atterri dans la race humaine en disant que à travers Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Le message, la commission de Dieu, c'était que le peuple juif témoigne de l'amour de Dieu à tous ceux qui les entouraient. Mais là encore, l'orgueil de notre vieille nature a fait qu'ils ont dit, en fait, Dieu nous a choisis parce qu'on est les plus forts, on est les meilleurs. Et lorsque Nicodème entend dire que Dieu a aimé le monde, c'est quelque chose qui doit, c'est une révolution 2.0, comme on dit aujourd'hui, un changement de paradigme. C'est quelque chose d'inimaginable qu'il va mettre du temps à recevoir et à traiter dans son cerveau, dans son cœur. On pense que ça a marché, puisqu'à la fin, on sait qu'il s'est désigné comme un... Il a défendu Jésus dans le Sanhédrin. Il a même participé avec Joseph d'Arimathée à l'embaumement de Jésus. Il s'est découvert, il s'est dit chrétien, disciple de Jésus. Il n'est donc pas venu seulement pour toucher les juifs, pour toucher les gens bien, il n'y en a pas. Il est venu pour toucher les pécheurs. Il aime les pécheurs. Il aime les pécheurs. Paul le dira encore dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ceci, Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on le dit, mais c'est saint Augustin qui l'a écrit le premier, « Dieu aime chacun de nous comme s'il n'y avait qu'un seul d'entre nous à aimer. » Difficile des fois à recevoir lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans l'inquiétude, la maladie, le chagrin. C'est important de relire ce verset. En effet, Dieu a tant aimé Pierre qu'il a donné son Fils unique afin que Pierre croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vais vous demander de lire à haute voix ce verset en mettant votre prénom. 1, 2, 3. En effet, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que, croit en lui, ne périsse pas, et la vie éternelle. Il faut réaliser que ça s'adresse à vous, ça s'adresse à moi. Le mot utilisé ici pour amour, c'est le mot agapé. En grec, il y a essentiellement trois mots. Il y en a un quatrième qui désigne l'amour naturel entre membres d'une même fratrie, d'une même famille. Mais il y a d'abord le mot eros, qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qu'on a retenu, nous, pour parler de l'amour romantique, de l'amour sexuel. Et ça signifie « je t'aime pour ce que tu m'apportes, ce que tu me donnes ». Puis il y a un amour qui a plus attrait à l'affection qu'on a les uns pour les autres. C'est le mot « philéo ». C'est l'amour-affection « je t'aime pour ce que nous faisons ensemble, j'aime bien être avec toi et faire des choses ». Et puis il y a l'amour agapé qui est utilisé ici. C'est l'amour sacrifice, c'est l'amour désintéressé qui ne demande rien en contrepartie. Je t'aime pour ce que je peux faire pour toi, comme récipient de mon amour. L'amour est fondé sur la source et non pas sur l'objet. La seule chose familière pour nous qui se rapproche de cet amour, c'est l'amour d'une maman. On parle des fois d'un enfant que seule une mère pouvait aimer, parce que l'enfant est pénible. Mais on sait que Dieu a donné, en partie, on est créé à son image, et les mamans ont cette compassion, cet amour. On le voit souvent lorsque quelqu'un terroriste est arrêté, et la maman se sent mal de ce que son fils ait commis des actes atroces, mais elle dit « je l'aime toujours ». Une maman, et Dieu c'est pareil. Dieu, quel que soit ce que vous puissiez faire, il vous aime. De façon sacrificielle, il donne son fils pour moi. Ensuite, il dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Tout à l'heure, on a chanté un nouveau chant, et un très beau chant, mais qui n'était pas fidèle au texte de Jean 3,16. Je m'explique. Il était dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il n'était pas question de périr, il n'était pas question de l'enfer. Et ça, c'est très important lorsque vous parlez aux gens, de leur faire réaliser qu'il y a un choix entre la vie éternelle et la mort éternelle. Alors, ce n'est pas un anéantissement, c'est une vie de tourment éternel. Le mot pour vie éternelle, c'est le mot qui se rapporte à la fin des âges, mais la vie éternelle, elle commence maintenant. C'est la vie abondante dont il sera question dans Jean 10:10. « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Et donc, c'est un détail sur ce champ et je sais que le message était correct. Mais lorsque vous parlez, insistez sur le fait qu'il est venu mourir pour vous afin que si vous avez la foi en lui, vous ne périssiez pas, mais vous ayez la vie éternelle. Sinon, on parle d'une solution sans faire réaliser aux gens qu'ils ont un problème. Il n'y a pas de bonne nouvelle s'il n'y a pas une mauvaise nouvelle d'abord. Et ça, c'est très important de dire aux gens à qui vous parlez, vos familles, les membres de vos familles qui ne sont pas sauvés, les voisins, les collègues, les gens dans la rue, si vous faites de l'évangélisation dans la rue, sans Jésus, si vous n'avez pas la foi en lui, vous ne pourrez pas être... Vous irez en enfer d'abord, et vous ne serez donc pas sauvés. C'est une répétition, cette précision du verset 14-15. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous vous souvenez du but de Jean en écrivant cet évangile? On a dit que cet évangile, c'est le livre qui nous aide à croire. Parce que Jean 20, 31 déclare « Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On a parlé de quiconque, c'était tous les hommes, croient en lui. On n'a pas trop développé. Qu'est-ce que c'est que croire en Jésus? Qu'est-ce que la foi? C'est le même mot en grec. Il y a différents types de foi. Et la foi qui sauve, c'est pas seulement... Alors, il y a les trois sens du mot foi. C'est d'abord une question de connaissance. Et on peut savoir qu'il y a un homme qui a existé, qui s'appelait Jésus. Je connais, j'ai entendu parler de Jésus, mais ça va pas vous sauver, ça. Ensuite, il y a le deuxième point, c'était l'adhésion intellectuelle. Oui, je pense que c'est bien de vivre selon les préceptes de Jésus. Ça me paraît raisonnable. C'est seulement une adhésion intellectuelle. Et puis, il y a la foi qui sauve, qui est une confiance absolue au point de confier sa vie à cette croyance. On raconte l'histoire d'un funambule français qui était renommé dans le monde à l'époque et qui était venu une fois traverser les chutes du Niagara sur un câble. C'est une histoire authentique. Et donc, c'était quelqu'un de très, très doué, quoi, qui commençait donc d'un côté où on avait tendu une corde tout au long et commençait avec sa grande balance, son grand bâton pour se balancer en glissant lentement, mais en progressant, un peu comme à la manière de ceux qui font de la slackline maintenant. On en fait au parc, mais on en voit aussi qui font ça entre des pitons rocheux dans l'arrière-pays. Et puis, il y avait une foule qui était rassemblée et qui l'a applaudi. Fantastique, le grand blondin, il a traversé les chutes du Niagara sur un fil. Puis il a demandé à la foule, est-ce que vous croyez que je peux le faire avec une chaise attachée sur mon dos comme un sac à dos? Oui, tu peux le faire, tu es formidable, tu vas le faire. Il disait, d'accord, je vais essayer. Donc il repartait dans l'autre sens, avec un poids supplémentaire sur le dos. Et puis, à l'arrivée, c'était « Oh, quel homme formidable !» Et ensuite, il disait « Est-ce que vous croyez que je peux le faire avec quelqu'un assis sur la chaise ?»« Oui, tu peux le faire, pas de problème !» Il dit « Qui c'est qui veut venir alors ?» Ça, c'est la foi qui sauve. C'est pas de croire que Jésus était un homme historique, personnage historique, qu'il avait des principes de grand homme, de grande sagesse. Est-ce que je suis prêt à le suivre en me confiant entièrement en lui, dans toutes mes décisions, dans tous mes choix? Ça, c'est la foi qui va sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Encore une fois, n'oubliez pas cette partie, c'est vital. Et souvent, certains s'insurgent contre ça. Ne vendez jamais Jésus-Christ d'un point de vue de bénéfice psychologique. Et on est tous un peu coupables de ça. Quand vous faites un témoignage de comment vous êtes venu à Christ, ne dites pas « j'avais des problèmes, je suis venu à Christ et maintenant je me sens tellement mieux ». C'est vrai et tant mieux, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on doit venir à Christ. La raison pour laquelle on doit venir à Christ, c'est que sans lui, on a une éternité de tourment promise, garantie. Et trop souvent, encore une fois, on dit il va régler vos problèmes. Vous avez des problèmes dans votre mariage, venez à Jésus, ça va aller mieux, vous verrez. Et encore une fois, quand Jésus arrive, toutes ces choses-là progressent, viennent à l'ordre voulu par Dieu. Et verset 17, on va avancer un peu. Verset 17, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est être préservé des conséquences terribles du péché qui est l'éternité en enfer. Si on n'est pas sauvé de quelque chose, on n'est sauvé de rien du tout. On va être sauvé de la banqueroute parce qu'une banque va nous prêter de l'argent. On va être sauvé d'une maladie parce qu'un docteur va vous donner un bon traitement. Mais on ne recherche pas le salut s'il n'y a pas de danger, encore une fois. Il est venu, cette première fois, comme un humble serviteur. Il est mort sur la croix. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il va revenir. Dans le livre des Actes, premier chapitre, versets 10 et 11, « Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Son retour est aussi décrit dans l'Apocalypse, prophétisé, Apocalypse 1:7, « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. » Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Jésus est venu une première fois pour sauver. Jésus va revenir pour juger. Matthieu 25, 31-33, le discours du Mont des Oliviers. À son retour, Jésus jugera les vivants et les morts. Paul, dans 2 Timothée 4, 1, parlant à Timothée, Paul dit « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement, de son retour et de son royaume, prêche la parole. » 1 Pierre 4,5, Pierre nous déclare « Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Dieu l'a envoyé une première fois pour nous aider, pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous juger la première fois. On a souvent du mal à le croire parce qu'on se sait coupable devant lui. Celui, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique, c'est le mot qui veut dire généré en premier, mais c'était un terme qu'on utilisait pour décrire quelque chose de formidable, d'unique. Et c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Ce Fils qui est vraiment, on dit aujourd'hui, il est unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est venu pour nous sauver, il va revenir pour nous juger. Et entre-temps, il nous donne la charge d'avertir tous les hommes. Verset 18 dit donc, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, il n'est pas condamné. » Dans le sens de « pas condamné ». Paul dira dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Ou dans la fin du chapitre 8, Romains 8, 33, Paul dira « Qui est celui qui condamne le croyant, celui qui ont mis leur foi en lui ?» Certainement pas Jésus mort, certainement pas Jésus est mort et ressuscité, et il intercède pour nous. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le nom de Jésus, qui vient du mot grec, du mot hébreu, pardon, Yeshua, qui veut dire Jéhovah Shua, Dieu, Jéhovah sauve, ou l'Éternel sauve, si on ne croit pas en lui, on ne peut pas être sauvé. La Bible parle essentiellement de deux grands jugements. Si on parle dans la rue avec quelqu'un, le jugement dernier, on pense que tous les hommes vont comparaître devant Dieu, ou c'est la croyance populaire, et puis que Dieu va, dans sa grande balance, peser les bonnes actions et les mauvaises actions, et selon le côté où ça penche, on ira en enfer ou au paradis. Ça, c'est une caricature ridicule. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien à voir. Ça remonte au Moyen-Âge, on voit encore beaucoup de... Même le symbole de la justice, en France, il y a toujours les yeux bandés, et puis les plateaux d'une balance. Alors on peut penser que les yeux bandés, c'est pour qu'il n'y ait pas de parti pris, ou alors c'est parce que on ferme les yeux sur plein de choses, peu importe, mais le jugement de Dieu, c'est pas ça. Il y a un jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, dans Apocalypse 20, versets 1 à 15, et là ce sont les incroyants qui sont jugés et qui seront condamnés s'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et puis il y a le jugement devant le tribunal de Christ dont il est question dans Romains 14, 10, 2 Corinthiens 5, 10, où ce sont les œuvres des croyants qui sont testées par le feu, les motifs des cœurs sont examinés pour voir si on a glorifié Dieu ou pas par ces motivations. Pour ceux qui se trouveront au jugement réservé aux incroyants, ce grand trône blanc, lorsque leur nom sera appelé, l'inculpation ne sera pas une liste de péchés, de tous les péchés commis au cœur de leur vie, au cours de leur vie. Oui, le 5 avril, vous avez fait ceci, le lendemain, vous avez refait ceci. Non, non, non. La seule raison pour laquelle les hommes sont condamnés à l'enfer, c'est qu'ils ne sont pas venus à Jésus. Leur seul péché, en fin de compte, ce sera d'avoir rejeté Jésus-Christ, d'avoir rejeté la solution offerte à vos péchés, la solution offerte par Dieu à vos péchés. Livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il est dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre don donné parmi les hommes » par lequel nous devions être sauvés. » Encore une fois, ce nom, c'est Jésus, c'est Yeshua, c'est le Dieu sauveur, Dieu sauve. On a du mal à ne pas penser qu'il faut progresser, faire des efforts personnels. En fait, cette déclaration... Juste une parenthèse, on peut penser qu'à partir du verset 17, au début, il y avait des paroles qui étaient prononcées par Dieu. Verset 10, Jésus lui répondit, tu es l'enseignement d'Israël, tu ne sais pas cela. Mais là, on peut penser qu'à partir du verset 17 jusqu'à la fin, c'est plus une réflexion de Jean l'évangéliste sur le salut en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus n'était pas encore mort lorsqu'il parlait. Il n'était pas encore allé à la croix, alors qu'au verset 10, verset 16, il a donné, c'est passé déjà. Il se place dans une autre référence, c'est pas bien grave, peu importe. si c'est Jésus ou pas, mais c'est Jean qui réfléchit sur le salut. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nous sommes tous coupables en naissant. Ce n'est pas à cause de certaines choses qu'on aurait faites, qu'on devient pécheur. On est conçu dans le péché, c'est-à-dire qu'on est dans la race humaine qui a été affectée par le péché, et c'est une loi inexorable. On est tous pécheurs. Le plus mignon petit bébé qui naisse, innocent. Non, il n'est pas innocent. Il a en lui cette racine de pécheur. On a du mal à l'admettre, mais il suffit de laisser le bébé développer ses poumons. Et si, quand il a faim, il crie. S'il avait un bouton rouge pour vous faire exploser, si vous n'amenez pas le lait, sachez qu'il l'utiliserait. Il est en colère. Et ça, c'est le péché dans la race humaine. Et on ne peut pas changer cela. On ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas pécher moins. Ce qu'il faut, c'est une nouvelle naissance. Ce que Jésus expliquait à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, naissiez d'en haut. Et là, c'est la solution de Jésus. Si on rejette Jésus, on rejette la solution. Si vous êtes sur un bateau en train de couler, un gros bateau qui coule, et que quelqu'un vient vous chercher en hélicoptère, descend un filin pour vous prendre et vous extraire de là, ça se passe régulièrement, il n'y a pas longtemps encore, dans les nouvelles on a vu ça. Si vous dites, prenez une grosse paire de tenailles ou de cisailles et que vous coupiez le câble, vous n'allez pas être sauvé. Vous avez rejeté le salut qui était offert par ces hommes. Je pense que c'est Dieu qui les inspirait sans doute, mais si on rejette le salut, on est condamné. On est déjà condamné et il faut être sauvé. Si on n'est pas sauvé, et encore une fois, il faut être sauvé par la foi. C'est pas compliqué, c'est la foi. Alors on a vu que c'était, il y avait plusieurs types de foi, et que la foi qui sauvait, c'est celle qui se mettait en place et qui disait « Je te suis, je te fais confiance complètement ». Pour exprimer un peu cette foi qui d'abord peut être une connaissance, imaginez que vous ayez très faim et vous voyez qu'il y a la pizza bip bip qui est, on va prendre une autre pizzeria parce qu'il n'y a pas de chaise là-bas, un restaurant pizzeria, vous dites là je sais qu'ils servent de la pizza le soir, je peux y aller. C'est une connaissance. Vous avez foi que vous allez recevoir de la nourriture là-bas. Vous allez pouvoir trouver de la nourriture. Lorsque vous dites je vais commander une 4 fromages. Là, c'est la foi qui croit qu'on va vous servir. Vous avez confiance que si vous commandez une 4 fromages, on va vous la servir. Mais la foi qui sauve, en quelque sorte, qui va vous sauver de la mort de faim, mourir de faim, c'est lorsque vous allez vous installer à votre table, sur une chaise, et que vous attendez plein de confiance. C'est ça, vous êtes mis à la disposition, vous êtes mis sous la grâce du restaurateur pour vous donner quelque chose à manger. Encore une fois, c'est cette foi qui sauve. C'est la foi du gars qui se met sur la chaise de Blondin. C'est pas une foi vague. Oui, peut-être bien que c'est un grand sauveur. On est condamné d'avance et il faut s'en sortir. Quand on lit la lettre aux Hébreux, on voit que c'est par la foi que tous ces gens ont agi, que tous ces gens ont été sauvés. Ils ont cru aux promesses de Dieu. Pour Abraham, il est dit que Abraham crut au Seigneur et cela lui fut compté comme justice. C'est pas parce qu'il était un homme formidable qui faisait aucun péché, mais c'est parce qu'il a donné sa foi, il a donné sa vie, il a confié. Et Dieu a décidé que ça, c'était comme s'il avait agi parfaitement de toute sa vie. Ça, c'est très important de bien réfléchir sur ces choses. Et encore une fois, de ne pas dire « Jésus va vous rendre heureux, il va vous donner une meilleure vie, il va vous faire devenir plus riche ». On sait qu'il y a des églises qu'on appelle la doctrine de la prospérité où on vous dit si vous venez à Jésus, il va vous donner la santé, il va vous donner la richesse. Ce qu'il faut vraiment, c'est confronter le péché qui est en moi, réaliser toute l'horreur du péché. Et je suis comme vous, il y a des fois je dis, oh, c'est pas bien grave, personne n'est parfait. Mais réaliser que le moindre petit péché aurait nécessité la mort de Christ pour que Dieu m'accepte. Et il l'a fait. Dieu est mort pour moi. Dieu a envoyé son Fils mourir pour moi, pardon. On pourrait continuer. Juste une chose, c'est si c'est si facile, c'est simplement comme commander une pizza et s'asseoir, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus? Pourquoi les églises ne sont pas remplies? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'une salle 100 fois plus grande? Verset 19, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. En fait, si les hommes ne viennent pas à Dieu en se repentant de leurs péchés, c'est parce qu'ils aiment leurs péchés. Pensez aux cafards. Dans les bâtiments à Nice, s'ils ne sont pas tout neufs, il y a souvent des cafards. Et même dans les bâtiments neufs, s'il y a des vibrations, ça les fait sortir. Mais il suffit d'allumer la lumière et ils se cachent. Et bien souvent, nous, on n'aime pas la lumière parce que ça dévoile notre péché. C'est l'histoire de la vidéo qui montre ce que j'ai dans mon cœur, les pensées que j'ai dans mon cœur. Il y a les missionnaires en Amérique du Sud, on leur disait comment ils faisaient avec les cafards, tous ces gros cafards qui, si on marche dessus, font un bruit terrible et laissent une grosse pile de chair ou de choses bizarres, vertes. Oh, c'est pas difficile. Tout ce que je fais, quand j'entre dans une pièce, je ferme les yeux, j'allume la lumière, je compte jusqu'à 5 et j'ouvre les yeux. Et ça, nous devons le confesser, nous devons demander pardon à Dieu, nous repentir. C'est son amour qui doit nous attirer à lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Quelle libération que de ne pas avoir de choses à cacher, de tout dire et de recevoir cet amour de Dieu manifesté à la croix par Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, on pourrait réfléchir longuement et sans doute avec plus de fidélité à ta parole en citant beaucoup d'autres choses, Seigneur, mais aide-nous à recevoir ce simple message qui résume l'Évangile. Tu nous as placés devant un choix, Seigneur. Nous avons le choix entre la mort et la vie, Seigneur. Merci de la simplicité du message, Seigneur. Merci de la simplicité du moyen. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur. à être prêts à miser notre vie sur toi, Seigneur. Et pendant que nous sommes dans cette attitude de prière et de recueillement, je vais vous donner l'occasion, si vous ne l'avez jamais encore fait, de recevoir le Seigneur Jésus comme votre maître, comme votre sauveur, de réaliser que vous avez le choix maintenant, ce jour, de choisir la vie et non la mort. Pendant que nous sommes encore dans la prière, si c'est votre cas, je vous demanderai de lever la main pour me le signaler, que je puisse prier pour vous, et on pourra se parler après. Mais c'est, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, c'est la réponse la plus appropriée, la seule réponse que ce verset mérite, c'est que vous mettiez votre foi en Jésus-Christ, que vous croyez en lui pour ne pas périr, mais pour avoir la vie éternelle. Seigneur, on te remercie pour la puissance de ta parole. Je te demande de continuer à travailler les cœurs si certains n'ont pas encore accepté ce message simple et puissant de ton amour. Merci de ce que tu aimes tous les hommes, Seigneur. On a souvent tendance à exclure des pans entiers de l'humanité, penser que les musulmans, les bouddhistes, les athées ne peuvent pas venir à toi parce qu'ils ont déjà fixé leur choix, Seigneur. Mais toi, tu es tout puissant. On prie en particulier pour les jeunes ce week-end à la montagne, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas là-bas, qu'ils puissent avoir l'occasion de te découvrir et de venir à toi. Sois béni, Seigneur. Te le demandons par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.